France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique.
Ferret le chanteur, le poète, Ferret le musicien. Enfant et adolescent, c'est à l'opéra de Monte-Carlo que se forgent le goût et la culture musicale de Léo Ferret. Il y voit notamment Maurice Ravel diriger son boléro et sa pavane pour une infante défunte. S'il reçoit dans sa jeunesse une éducation musicale, il poursuivra sa formation en autodidacte, son père s'étant opposé à ce qu'il intègre le conservatoire. Après les années de vache maigre, après le temps des cabarets où il s'accompagne seul au piano, viendra peu à peu pour Ferret le succès et avec lui la possibilité de chanter et d'enregistrer en presque totale liberté. À partir des années 70, après la période des pop, Léo Ferret pourra enfin donner vie à des compositions pour grand orchestre qu'il dirigera lui-même sur ses propres textes et sur les œuvres d'Apollinaire, de Rimbaud, de Verlaine et de Baudelaire. En janvier 1971, Léo Ferret est l'invité d'Émile Noël pour l'émission Profil, dont nous écoutons le troisième volet.
D'abord, finalement, quand même un musicien. Vous avez accédé à la musique très jeune, donc vous avez fait des études de musique. Comment ça s'est passé?
Non, moi, je mettons que je sois vraiment autodidacte.
Pourtant, vous êtes autodidacte, mais vous savez quand même ce que c'est que vous écrivez la musique.
J'ai tout appris, hein. Oui, oui. Mais tout seul. J'ai pris des leçons un moment avec un type pas mal, mais qui était pas un prof en définitive. Il me parlait beaucoup. C'était un type qui s'appelait Léonide Sabaniev, qui était à Nice.
Il était professeur de piano, d'harmonie.
Il était professeur de tout. C'est un musicien très très trapu, pas mal, qui avait été critique en Russie, critique musicale, et puis qui s'était retiré à Nice, je sais pas pourquoi. Et ce type, il avait des tonnes de musique comme ça. Une musique un peu, c'était un élève de, il avait été élève de Scriabine, vous savez, et il avait des tonnes de musique. Alors je regardais ça, ça me faisait froid dans le dos. J'ai dit mais, et j'ai eu avec l'impression vraiment nette que ce serait jamais joué. Et depuis, ça fait 25 ans maintenant, on n'a pas jamais entendu parler de ce type, quoi. Des partitions, des paquets comme ça. C'est triste, vous savez, la musique.
Oui, mais peut-être aussi que. La musique, effectivement, ça avance aussi. Enfin, je veux dire que ça avance, ça se modifie. Les climats musicaux se modifient. Il peut y avoir des musiciens qui sont de grands musiciens, mais qui ne trouvent pas la couleur, le climat. Enfin, oui, ça existe encore.
Pour les grands musiciens, là, d'abord, il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi pensez aux artistes du 19e siècle, par exemple, autour des 5 poètes, 5 peintres, 5 musiciens. Ouais, pas au-delà, vous savez. Pourquoi il y en aurait 20 000 maintenant?
C'est vrai, mais la couleur de la musique a changé beaucoup.
Oui, enfin, on l'a fait changer. Mais on fait, vous savez, il y a une époque byzantine, de toute façon. Hein.
C'est la décadence. On vit une époque baroque, c'est sûr.
Décadence. Alors la musique comprise, ce qu'on appelle la musique maintenant, excusez-moi, mais... Hein, je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça, mais lorsque Boulez il dirige les trucs avec lesquels il se prend son plaisir. Il dirige Péléas, il dirige Parsifal. Il dirige de moins en moins Schoenberg, comprenez, parce qu'il fait pas de monde, hein, c'est bien vrai quoi. Schoenberg est un type, vous savez que Schoenberg est un type qui avait orchestré pour gagner sa vie. Vous savez combien? Il avait orchestré 4000 opérettes de donc qu'on connaîtra jamais. C'était un type qui travaillait quoi. Et un beau jour, il a découvert ça, il a inventé la dodécaphonie. Bon, c'est une grande rigolade.
Vous pensez sérieusement que c'est une grande rigolade?
Moi, je pense, à moins qu'il y ait le génie qui passe à travers. Un type Berg et puis Bartok. Voilà. Bon, dans le concerto de violon, Bartok, il emploie la méthode sérielle à un moment. Mais c'est génial, pourquoi? Parce que c'est un génie, vous comprenez? Puis il emploie aussi l'accord parfait, vous comprenez? Hein? Avec la harpe, et puis concerto. La musique, elle doit faire pleurer. L'art doit faire pleurer. Si je dis ça du haut d'une cathèdre, c'est parce que c'est vrai, et c'est d'autres l'ont dit avant moi, donc je n'invente rien. La musique, c'est triste, la beauté, c'est triste, ça doit faire pleurer. Si ça fait rigoler, si ça fait gratter la tête, ou si ça fait sortir les snobs de leur cabinet, c'est pas de la musique, c'est d'autres choses. Voilà, c'est tout. Il me semble. Hein, bon. Puis Ravel en attend en France l'autre musicien.
Oui, mais la caractéristique, c'est quand même que cette musique, que vous semblez ne pas accepter.
Je suis un type qui quand j'écoute de la musique, je demande qu'à marcher.
Bon, mais enfin, cette musique à laquelle vous croyez pas trop, elle ne naît pas qu'en France, elle naît un petit peu partout. C'est comme ça.
Mettons que la décadence soit mondiale.
Vous pensez que c'est plutôt une manifestation?
Moi, je crois que c'est une manifestation. Le seul drame du musicien. Surtout du type qui se croit musicien, c'est le drame de la mélodie. Bon. Et ben, c'est très peu de musiciens qui ont le sens, qui ont envie de chanter en musique, c'est tout. Voilà. Et les autres, quand ils n'ont pas ça, et ben, ils trichent. Et notamment avec la mathématique sérielle. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire?
Et alors la pop musique pour vous,
c'est intéressant. D'abord, ça a tué tous les paroliers minables qu'il y avait en France depuis la Libération. Ils sont dans la misère, tant mieux. Il faut qu'ils fassent autre chose. Hein, bon. Et puis, ils sont musiciens, la plupart du temps. Ces jeunes sont des musiciens. Le bruit compris. Hein, c'est bien foutu, qu'est-ce que vous voulez faire? Je ne sais pas. Je ne t'aurais pas expliqué. Là, je vous en parle en tant que public, vraiment. Hein.
Vous avez fait quelques essais avec des groupes, quand même.
Oui, je pense que ça allait avec les chansons que j'ai fait avec eux. Il fait deux.
La Zenana, c'est dans la voix et dans le geste. La Zenana, c'est Zenana avec un zeste. La Zenana, quant à la jupe à ras-le-bonbon. La Zenana, c'est pas compliqué mais c'est bon. La Zenana, que ça vous mate ou que ça vous touche. La Zenana, c'est l'eau courante au fond de la bouche. La Zenana, et quand ça vous refile une galoche. La Zenana, tu joues complet dans ton cinoche. La Zenana, c'est dans la taille et dans le face. La Zenana, c'est Zenana et puis c'est basse. La Zenana, quand t'as chômé devant son cul. La Zenana, les chômeurs, ça coupe pas les rues. La Zenana, que ça se traîne ou que ça se trimballe. La Zenana, au septième ciel, tu fais tes mal. La Zenana, et tu lui redemandes un ticket, la Zenana, pour t'emballer au bout du pied.
Ça, c'est une chose nouvelle. Tous ces gens qui, avec une guitare, on fait basculer le métier. C'est pas mal, ça.
Ça vient un petit peu d'autre chose. C'est-à-dire que finalement, la pop musique, traduction française, musique populaire, oui. Venue d'Amérique et d'Angleterre, c'est... Je ne dirais pas que c'est de la musique politique, mais c'est quand même, si, un petit peu ça. Je veux dire que la signification de la pop musique, c'est autre chose que changer la couleur des sons. C'est aussi changer, par exemple, je pense à l'école de Liverpool, puisque maintenant on parle déjà d'école de Liverpool, d'où sont sortis les Beatles.
Ah, vous savez, ce sont des gens qui ont du génie. Hein, ouais. Le musicien des Beatles, qui s'appelle Lennon, c'est un type aussi qui a autant de talent, enfin, comment dire, toute proportion gardée avec le fait qu'il est à notre époque, Schubert, il a autant d'inventions mélodiques.
Oui. Il n'y a pas de problème. Ce que je voulais dire, c'est que précisément, les Beatles et un certain nombre d'autres, comme les Rolling Stones, des gens comme ça, sont effectivement sortis de la musique et sortis par conséquent des classes populaires, un petit peu comme les boxeurs sortaient des classes populaires pour faire de la boxe. Je veux dire que tout d'un coup, effectivement, c'est une musique qui, tout au moins à son départ, elle n'est pas sortie de la bourgeoisie.
Oui, ça c'est très intelligent ce que vous dites, et c'est très vrai, parce que, comme des boxeurs, l'image que vous avez employée est très juste. Oui, et alors, pourquoi ? Je ne sais pas. Et moi, je trouve que c'est très bien. Je ne peux pas vous analyser, je ne peux pas vous dire pourquoi, parce que je suis vraiment comme le public qui écoute, quoi. Enfin, je suis d'ailleurs bon public, comme je suis bon public au cinéma quand il y a un bon film.
Est-ce que ça peut influencer votre façon de influencer dans le bon terme, bien entendu. C'est-à-dire qu'est-ce que vous pouvez porter à votre compte l'apport, par exemple, des sonorités pop musique en dehors de cette collaboration que vous avez eue avec un groupe pour deux titres.
Oui. Alors là, je vais vous dire une chose qui est vraie. C'est une chanson qui est dans mon dernier disque que je chante au théâtre en ce moment, qui est une chanson. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça. J'avais écrit un texte il y a des années qui était paru dans le petit livre qui m'est consacré dans la collection Poète d'aujourd'hui, chez Segers. Et c'est un poème, quoi. J'ai fait des coupures là-dedans et j'ai mis ça en musique. Comme je travaille avec Jean-Michel Defaille, qui est mon orchestrateur, je lui ai dit, écoute, tu fais Bartok Pop. J'étais en Italie, je lui ai envoyé une bande que j'ai enregistrée là-bas. Comme on était pressé, il fallait qu'il fasse vite la partition. Je lui ai dit Bartok plus pop. Alors, il a fait avec l'orchestre traditionnel. Et puis, l'orchestre est venu enregistrer le matin. Et le soir est venu le seul type à Paris qui joue, qui est un Français, qui joue de la sitar électrique, qui est un instrument pop, n'est-ce pas ? Et bien, c'est ça qui donne la couleur pop à tout. Et pourquoi ? Parce que cette sonorité un peu inaccoutumée. Et s'il n'y avait pas cette sitar, il n'y aurait pas la couleur pop dans cette chanson. Or, c'est une chanson qu'on peut dire une chanson dingue un peu, assez difficile, et ça marche. Mystère. Et j'aurais fait ça il y a 10 ans, on me sifflait. C'est sûr.
Moi, j'ai remarqué, en tout cas, au travers de... puisque je m'intéresse à Léo Ferré depuis ses débuts, enfin, tout au moins depuis que le premier disque a paru, dans la Firbe Odéon, c'est-à-dire que ça fait quand même un bout de temps, il y a effectivement, et dans la structure des chansons, dans la couleur musicale, aussi bien dans le traitement de l'orchestration que même maintenant dans les nouvelles chansons, dans la façon d'aborder les chansons, une évolution que je ne saurais pas analyser non plus, mais que je sens évidente. Et je suis pas tout à fait étonné que vous ayez un problème si vous avez envie de reprendre l'homme ou si vous avez envie de reprendre des chansons comme ça. Peut-être ça sera plus facile, ça c'est plus facile pour vous de rechanter la chambre que de rechanter des chansons comme oui, l'homme ou des choses comme ça.
C'est sûr.
Je ne sais pas pourquoi, mais
oui, mais ça, je ne pourrais pas l'expliquer non plus, voyez-vous. Mais vous avez compris, et sans le savoir, comme ça, quoi. Sans l'expliquer non plus. Mais alors ça, c'est le fait, le type qui évolue, quoi, et qui tend à plus de rigueur possible, non pas dans le style, mais dans la façon de m'exprimer, d'exprimer ma pensée, en définitive, vous comprenez ?
On m'a prêté 4 vieux murs pour y loger mes 4 membres. Et dans ce réduit très obscur, je voulus installer ma chambre. Pour lui donner un air coquet, je suspendis aux murs en pente les diplômes que j'ai manqués et mes décorations absentes. Sur une table, les photos de celles qui se refusèrent, sur des rayons, les in quarto des livres que je n'ai su faire. J'ai mis derrière les fagots, les grands crus de notre royaume. Les Chambertins et les Margaux dont j'ignore jusqu'à l'arôme. Et dans un vaste coffre-fort, rangés en piles régulières, toutes les valeurs et tout l'or que j'aurais pu gagner naguère. Par la fenêtre se glissant, voici qu'un doux rayon bleuâtre
est venu remplir mon théâtre d'un mobilier étourdissant. Voici des tapis d'ambition, voici des tentures de rêve, voici qu'un rideau se soulève sur un chevalet d'illusions, voici des coussins de serment couvrant des fauteuils de promesses, et puis des colliers de tendresse et des bouquets de sentiments.
Vous écrivez un assez grand nombre de chansons qui finalement sont difficilement programmable sur les ondes, vous le savez, pour des raisons diverses, soit d'utilisation de vocabulaire, soit de thèmes ou de choses comme ça. Est-ce que vous pensez que ça gêne beaucoup à votre carrière, enfin que ça peut modifier votre carrière, car finalement, vous êtes un auteur, compositeur, interprète assez connu, vous pouvez vous permettre de vous remplissez Bobino, vous remplissez d'autres salles importantes. Mais vous savez, vous n'êtes pas très fréquemment sur les ondes.
Oui, alors là, d'abord, parlons de Bobino. Je veux dire que, moi, je dis qu'il n'y a pas de vedette, hein, d'abord. Bobino, c'est, à tout casser, quand c'est bourré, c'est 1100 personnes. Je fais, je ne sais pas moi, une quarantaine de, du 10 novembre au 13 décembre, je fais une quarantaine de salles, hein, y compris les matinées. Donc, ça fait... Mettons à tout casser, 50 000 personnes en bourrant, en faisant complet Bobino à chaque séance, 50 000 personnes dans un mois, dans cinq semaines, dans une ville où il y a 6 millions d'habitants. Alors, ça veut dire... C'est les gens que je rencontre, la plupart du temps. Ils me disent, des fois, j'ai fait des sondages, j'ai essayé de savoir, et je suis arrivé. Ils me disent, oh, M. Ferré, j'ai tous vos disques. Quand ils en ont un, parce que je les interroge. C'est le bout du monde. Hein? Bon, donc vous disiez que je suis assez connu. Mais c'est bien assez, quoi. Hein? Les gens, ça ne les empêche pas de dormir. Les gens n'ont pas le temps de connaître, ils n'ont pas le temps de lire, ils n'ont pas le temps de tout écouter.
C'est d'ailleurs intéressant ce que vous disiez tout à l'heure à propos de la pop musique, parce que c'est un fait que j'ai l'impression que la clientèle qui a mobilisé, enfin qui a été mobilisé par la pop musique, est très sensible à ce que vous faites. C'est-à-dire que je suis à peu près certain que votre clientèle s'est rajeunie.
Oui, mais alors ça c'est 68. C'est pas. Il y a la porte ouverte depuis 68, pas avant.
Des jeunes, c'est-à-dire. Pour vous, ça a été très très précis.
Oui, mais depuis. Mais alors je ne peux pas vous l'expliquer parce que. Bon, 68, c'est pas moi. 68, c'est ce qui s'est passé. Bon. Et puis, alors, il y a des tas de jeunes, mais quand je dis jeunes, c'est de 13, 14, jusqu'à 22 ans, hein, qui d'un coup ont dit, écoutez, je sais pas, ils sont venus, puis on leur a dit. Il s'est passé un phénomène d'information à propos de moi, quoi. Et ils viennent.
Ouais, mais est-ce que vous croyez pas qu'il y a tout de même là une espèce de mouvement intéressant dans la mesure où on retrouve dans certaines préoccupations de ces jeunes des préoccupations qui existaient à des gens qui avaient sensiblement leur âge tout de suite à la libération, avec bien entendu des décalages. Il n'y avait, oui, avait pas le micro-sillon ni le magnétophone en 44, c'est évident. Oui. Mais il semble bien que ce ne soit pas par hasard que Boris Vian soit très lu actuellement par les jeunes, que ce ne soit pas par hasard qu'un certain nombre de gens comme ça se retrouvent de nouveau à la pointe de l'actualité.
Oui.
Vous êtes un peu de ceux-là.
Oui, ben c'est parce que c'est des gens qu'il y a 20 ans, on était comme les jeunes maintenant, vous comprenez ? On pensait comme eux, quoi. Et une certaine libération. Cela dit, moi, je parle beaucoup aux jeunes. Vous savez qu'ils ne sont pas aidés, les jeunes. Pas du tout. On parle beaucoup d'eux, on dit la jeunesse est libérée, tout ça. Les jeunes, ils sont seuls. Et il y a ce fossé qui est entre les jeunes et les vieux. Pour moi, les jeunes, c'est ceux qui n'ont pas encore accédé au boulot, quoi, à leur truc, vous comprenez ? Et c'est pour ça que le danger de ces jeunes qui sont seuls, qui ne sont pas aidés, et c'est vrai, on parle beaucoup de malheur dans le coin parce que les gens, quand les placent, ils les gardent bien. Donc les vieux, hein, et ce fossé qui est entre ces jeunes qui n'ont rien fait, qui vont faire quelque chose dans la vie, et les autres, j'ai peur qu'ils soient trop vite passés comme ça. Et dès qu'ils se retrouvent de l'autre côté, ils sont vieux, tout de suite. Et vous savez qu'il y a des jeunes qui vieillissent d'un coup, hein, et qui sont pires que les autres. Peut-être par réaction. C'est un danger, c'est un danger. Cela dit, vous savez l'histoire de la drogue. C'est malheureux l'histoire de la drogue. Mais c'est une... C'est un fait de solitaire, ça. Et de désespoir du type qui était laissé dans le coin. Hein.
Est-ce que vous croyez au fossé des générations ? C'est-à-dire, vous croyez qu'on peut avoir 40 ou 50 ans, avoir ce qu'on appelle un esprit jeune, ou être toujours productif, s'intéresser à l'avenir, et cependant ne pas pouvoir, je dirais pas adhérer, mais en tout cas ne pas pouvoir participer pleinement avec les problèmes de la jeunesse ? Est-ce que l'âge est effectivement un fossé matériel incomblable ?
C'est un fossé psychique, en tout cas. Vous savez, il n'est pas possible de se dire, moi j'ai 54 ans, de se dire, ben j'ai 18 ans. Et pourtant, moi je crois que j'ai vraiment 18 ans, j'ai même 7 ans, ou j'ai 10 000 ans, mais un type 40 ans qui est cadre dans un machin, tout ça, qui a des problèmes avec sa famille, qui a des problèmes avec ses supérieurs. Qu'est-ce que vous voulez ? Il ne peut pas se mettre à la place des jeunes. Les jeunes l'emmerdent, vous comprenez ? Parce qu'ils vont prendre sa place. On est seul au monde. Et quelqu'un qui risque de prendre votre place, eh bien, c'est grave. Parce que si vous prenez votre place, vous êtes dans le coin. Vous comprenez ? Et c'est ça qui se passe. Et c'est même inconscient, ça. Et on peut se mettre à la place des jeunes. On se dit, oui, vous savez, c'est facile de dire, il y a la faim aux Indes, on meurt de faim. Oui, mais si vous ne le voyez pas, vous comprenez ? Hein ? Il y a tout de même eu ces 300 000, ou je ne sais pas combien de morts, mais 1 million, je ne sais pas, de disparus au Pakistan. On dit ça avec des sanglots dans la tête, n'est-ce pas ? Et puis on s'en fout. Pourquoi ? Parce qu'on ne voit pas ça de près. Parce qu'on n'y est pas. Hein ? Je suis sûr que si j'avais été là-bas ce jour-là, ben je verrais ça d'un œil beaucoup plus sensible que je ne le vois maintenant. Moi, à mon niveau, n'est-ce pas ? Et alors, c'est facile, quand je dis les jeunes, mais moi je suis dans ma place, j'ai mon truc, j'ai ma voiture, j'ai mes problèmes, j'ai mes petits maux de tête, et puis mon petit machin. Difficile d'éviter le confort... qui est d'avant tout un confort intellectuel, parce qu'il est beaucoup plus confortable de penser qu'on a ses pantoufles que de les avoir, en réalité. Le confort, ça se passe là-dedans. C'est pas tellement le fait de se bien chauffer, de se dire, tiens, je rentre, mais je vais être chauffé, vous comprenez ?
C'est parce qu'on n'a pas trouvé le bonheur qu'on avait rêvé, mon camarade. Un jour, on sera tout ébahi, on arrivera dans un pays plein de fleurs, d'oiseaux, de cascades. On sera reçu à bras ouverts, il y aura des carillons dans l'air, mon camarade. Il y aura une petite blonde pour moi, et puis une petite brune pour toi, qui trouve que les blondes, c'est trop fade. Elles nous trouveront bien à leur goût, et diront, venez donc chez nous, mon camarade, on trouvera ça. Mais oui, mon vieux, c'est peut-être là-haut. Dans les cieux, dame, faudra pas rester en rade. On a tant marché ici-bas qu'il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Mon camarade.
Moi, je trouve assez fascinant certains objets modernes ou contemporains, mais... particulièrement la nuit. Je trouve que le monde contemporain est fascinant la nuit. Une ville avec ses grandes baraques qui s'éclairent de façon très curieuse, la nuit et l'hiver, c'est assez fabuleux.
Oui. Pourquoi ? Parce que vous êtes un solitaire, mon vieux. Parce que du moment que vous êtes seul quand vous voyez ça, vous êtes dans la rue, vous êtes en voiture. Quoi. Les gens de la nuit ne sont pas tous formidables, mais ils ont tous du caractère, ils ont tous quelque chose. C'est pas, vous comprenez, qu'un type qui vit toutes les nuits comme ça, qui traîne un peu dans les bistrots et tout ça. D'abord, les gens qui travaillent la nuit sont plus intéressants que les gens qui travaillent le jour. D'abord, parce qu'ils ont choisi de travailler la nuit. C'est difficile de travailler la nuit. C'est beaucoup moins confortable. Et alors, ils ont quelque chose en plus que les gens du jour. Et puis, les gens qui traînent aussi. Ils ont quelque chose. Même les canailles, vous comprenez. La nuit, c'est une... C'est, d'ailleurs, la fraternité de la nuit, ça existe beaucoup plus que la fraternité du jour, comme il existe sur les routes la fraternité des motards et que la fraternité des automobilistes n'existe pas, n'est-ce pas ? Si moi, j'ai une moto, si je m'arrête sur la route, si j'ai un ennui, et un motard s'arrête, il me donne un coup de main. Et les flics vous saluent, mais fraternellement. Quand vous êtes en voiture, les flics ne vous saluent pas. Ils vous coursent, si vous faites une connerie. Les flics vous protègent. Et ça, c'est le truc des minorités. Vous comprenez ? Il faut être dans une minorité pour pouvoir vivre dans cette société. Et la nuit, c'est une minorité. Et c'est pour ça que la nuit, on vit bien.
Les copains de la neuil, les frangins de la night, ceux qui ont le portefeuille, plus ou moins all right, ceux pour qui la mouise, ça fleurit que le jour, qu'on le rouquin en guise de frisson d'amour. Les copains de cocagne, ceux qui ont des fafios et qui font des magnes à la veuve Cliquot, ceux qui comptent les heures sur leurs pattes en velours, et qu'on une demeure pour y planquer le jour. Les copains de la farce qu'on m'aime pas de buffet, pour y foutre une garce ou pour y danser. Ceux qui poussent la lourde des minuits passés et qui n'ont comme gourde que celle du taulier. Les copains de la frime, ceux qui vendent le vent à des prix minimes quand y a du client. Ceux qui ont la vie brève comme la fleur des champs et qui vivent en rêve pour gagner du temps. Les copains de la dure, ceux qui vivent pas cher, mais qui ont de la verdure, même en plein hiver. Ceux qui prennent la lune pour du Beaujolais, mais qui ont le clair de lune en dessous du gosier. Et les copains de la bise à l'âme gercée et qui se foutent en prise avec deux gorgées. Ceux qui comptent les heures sur les doigts de la main et qui se font leur beurre avec leur chagrin. Les copains du soir et les frangins de la nuit, ceux qui bossent au noir jusqu'au bout de leur vie, ceux qui ont la vie louche comme un beau matin et qui se cousent la bouche en causant des mains. Et les copains de la neuil et les frangins de la nuit, aux matins des feuilles de tous leurs habits, le petit jour canaille les prend par le cou et puis les empaille comme des hiboux. Le
troisième volet de l'émission Profil, dans laquelle Émile Noël recevait Léo Ferré, a été diffusé pour la première fois le 18 janvier 1971.